Mais avant, amusons-nous un peu et nous aurons le plaisir de discuter de jeux vidéo avec notre chroniqueur en technologie, Alban Thomas. Bonjour Alban.
Bonjour, ça va bien?
Ça va super. Et les jeux vidéo, c'est un domaine qui est tellement vaste. Il y a des nouveaux jeux qui sont présentés au public chaque semaine. Il y a des jeux plus anciens qu'on aime parce qu'on est habitué. Mais aussi, ça amène des difficultés parfois d'accessibilité ou de contact ou de communication avec des personnes qui peuvent avoir des limitations, soit visuelles, auditives ou motrices.
Effectivement, parce que le jeu vidéo, c'est un art total hein, qui comporte de l'image, du son, et puis en plus de l'interaction, donc il faut pouvoir bouger. Et puis, on voit que ces derniers temps, l'industrie commence à faire, on va dire, un grand pas en avant. Et puis, il y a des innovations technologiques qui sont mises en place. Donc, moi, je suis là pour parler de ça. On va parler d'innovation et d'innovation technologique. Et puis, j'ai envie de dire, commençons un petit peu par dresser un petit portrait de l'industrie. L'industrie, en fait, c'est la première industrie culturelle dans le monde, devant le cinéma et la musique.
Ouais. Ça veut dire qu'il y a plus d'argent investi en développement, mais aussi en achat de la part du public.
Exactement.
Il y a plus de gens qui sont touchés par le jeu vidéo que par... Et pourtant, on a l'impression que c'est un truc d'ado, là, je m'excuse de dire ça, la façon que les médias traitent le sujet.
Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'argent qui sont mis, il y a beaucoup de recherche et de développement, et il y a surtout, évidemment, beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses. Hein. Au Canada, en 2021, c'est 4,3 milliards de dollars de revenus, donc c'est quand même beaucoup.
Il hein. Y a combien de gens qui font du jeu vidéo, là, plus que, je dirais, une fois par mois?
Il y en a beaucoup, beaucoup. De manière régulière, il y a 60% des adultes et 90% des enfants adolescents au Canada. Ça, c'était en 2020, c'était une étude de l'Association canadienne du divertissement. Et en plus, on voit que ça augmente évidemment tous les ans.
Donc, ça n'a pas fini. Parce que les plus jeunes je dirais pas qu'ils sont nés avec la manette devant eux, ces plus jeunes-là vont devenir des adultes, vont probablement continuer à s'adonner à des jeux vidéo et ainsi de suite. Donc, la différence entre le créneau jeune-adolescent et adulte va finir par se fondre.
Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Et en plus, on peut le voir, par exemple, à l'âge moyen des joueurs. L'âge moyen, en ce moment, cette année, c'est de 34 ans. Et ça fait que d'augmenter, justement, c'est littéralement ce que tu disais, parce que les joueurs grandissent, continuent de jouer. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui jouent.
Donc, et de là, le défi pour les joueurs de jeux vidéo. En anglais, on dit des gamers.
Ouais. Hein?
Est-ce qu'il y a un terme français, au lieu de dire gamer, est-ce qu'on dit quoi? On dit des joueurs?
Des joueurs, je pense que des joueurs, ça suffit.
Alors, qu'est-ce qui arrive pour les joueurs qui ont des challenges d'appréhension du jeu, que ce soit visuel ou autre?
Ouais, y en a beaucoup. Hein, y en a beaucoup. Ça fait très longtemps qu'il y en a. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites dans le passé. Mais là, évidemment, quand on a 4,3 milliards de dollars de revenus, on peut se permettre de faire de mettre de l'argent dans la recherche. Et puis, on se retrouve avec des technologies qui vont aider de plus en plus de monde à pouvoir accéder à ce passe-temps qu'est le jeu vidéo. Moi, je te propose de sauter directement dans le sujet.
Oui.
Si on parle des handicaps visuels partiels, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui sont faites et on les trouve directement à l'intérieur des jeux.
Alors, des fois, il y a des intégrations qui existent déjà dans le jeu qu'on sort de la boîte, là, façon de parler parce qu'on ne les sort pas de la boîte, là, mais qu'on va télécharger.
Ouais, c'est exactement ça. Et la plupart des réglages, ça va se trouver dans les jeux. Donc, tu peux trouver des filtres de couleurs, des filtres de contraste. Notamment pour les personnes daltoniennes, c'est très utile. Il y a des choses qui sont préfaites pour eux. Mais on peut avoir aussi d'autres réglages comme des grossissements, une customisation complète de ton interface. Si tu as du mal à voir un petit élément, c'est bien d'avoir la possibilité de l'agrandir et de pouvoir mieux gérer en fait le jeu. Évidemment, il y a un problème. Hein. Le problème, c'est que toutes ces technologies sont intégrées jeu par jeu. Donc si j'ai une technologie que j'adore dans un jeu et que j'en achète un deuxième et qu'elle n'est pas là, je suis un petit peu coincé. Je ne suis pas aussi à l'aise qu'avec mon premier jeu.
Il faut recommencer.
Ouais, c'est ça, c'est un petit peu difficile. Moi, j'ai une petite solution. J'amène une petite solution. C'est un logiciel de traitement d'image qui s'appelle Reshade, en anglais évidemment. Reshade.
D'accord.
Et puis, ça permet de customiser en fait toutes les couleurs de notre logiciel. Donc ça peut être les couleurs à l'intérieur du jeu, de l'interface, mais aussi les lumières, augmenter le contraste, changer les couleurs de certains éléments. Et ça va permettre vraiment de se mettre à l'aise. Une fois qu'on a nos préconfigurations qu'on préfère, on peut le passer de jeu en jeu Et là, ça va vraiment être utile pour plus casser la tête et plus rentrer dans les réglages un par un.
Parce que c'est vrai que souvent, dans les jeux vidéo, si l'action se passe dans un endroit mal famé, que ce soit un donjon ou les égouts de New York, tout est sombre.
Ah, tout est sombre, c'est vraiment difficile. Donc on nous fait régler un petit peu le contraste, mais la plupart des jeux ne vont pas aller très très loin. Alors que si on a déjà un logiciel qui tourne derrière, qui va permettre de nous aider, qui va s'adapter un petit peu à tout ça, eh ben ça va être très très utile.
Alors ça s'appelle Reshade, R-E-S-H-A-D-E. .me.
Ouais, le site internet où on peut le télécharger, c'est reshade.me, donc .me.
Parfait. De toute façon, pas besoin de se casser la tête, on va tout mettre ça sur le site de Canal M, n'est-ce pas?
Effectivement.
Voilà.
Et donc, alors ça, c'est pour les handicaps visuels partiels. Mais alors, si on est non-voyant, par exemple, ça va être encore plus difficile de jouer, puisque c'est un jeu vidéo, la composante vidéo est très, très importante. Mais si on ne voit rien du tout, Il y a des choses qui existent, mais c'est difficile. C'est extrêmement difficile d'adapter un jeu qui a été fait pour être joué à l'œil et qui soit uniquement jouable au son. Mais il y a de nouveaux jeux, de nouvelles technologies qui sont en train d'être développées. Et moi, j'ai sélectionné deux jeux en fait que les gens peuvent télécharger.
Qu'on peut jouer sans aucune image.
Sans aucune image.
En fait, ils sont conçus pour ne pas avoir d'image.
Exactement. Et donc là, si vous voulez, vous pouvez prendre votre téléphone, par exemple, et commencer à télécharger un jeu qui s'appelle A Blind Legend. Donc A Blind Legend en anglais. Par contre, le jeu est en français. C'est possible de l'avoir en français, donc ça, c'est assez chouette. En français et en anglais. Et il est gratuit sur iOS et Android, donc sur les téléphones portables. Il est payant sur PC, mais c'est exactement le même jeu. Je conseille de le prendre au pire sur le téléphone. Et donc là, ça va être un jeu d'action-aventure, ou alors on aura une voix qui va nous parler, qui va nous décrire l'aventure qui se situe. Et puis, on a des actions à faire. On peut appuyer n'importe où sur l'écran pour, par exemple, bloquer un coup, attaquer, se déplacer. Et tout ça se fait très, très bien à l'oreille.
Ça s'appelle A Blind Legend et c'est disponible autant en français qu'en anglais.
Ouais.
Et donc, c'est conçu pour n'avoir rien du tout à l'écran.
Exactement.
Parfait.
Exactement. Il y a un deuxième jeu que je peux conseiller qui est exactement sur le même principe, qui s'appelle Lost in Blindness. Celui-là, il est payant sur toutes les plateformes. Donc, je conseille de commencer par le premier, évidemment.
Ouais.
Mais celui-là, il est aussi disponible en français et en anglais. Et ça reprend un petit peu les mêmes mécaniques de jeu, les mêmes principes de jeu. On va écouter une voix, un narrateur qui va nous parler. Et puis, avec l'écran, on va pouvoir faire des actions.
Et là, encore une fois, même si le titre est en anglais pour des questions de marketing, Lost in Blindness aussi, c'est disponible en français.
Oui.
Et encore une fois, ça peut être sur Android, iOS, Mac, PC, tout ça.
Exactement. Et j'ai envie de parler, en fait, dans cette chronique, de la plus grande technologie qui existe, qui est pour les handicaps moteurs. Pour n'importe quel handicap moteur, Microsoft, lui, il a révolutionné le monde de l'accessibilité dans le jeu vidéo avec un nouveau périphérique. C'est une technologie qui s'appelle, je le dis encore en anglais en premier, Adaptative Xbox Controller. Donc ça s'appellerait le contrôleur adaptatif Xbox. Et ça, c'est une sorte de boîte noire sur laquelle on peut brancher n'importe quel périphérique. Et on peut jouer à notre jeu avec n'importe quoi. La boîte de base coûte 129,99$.
On va dire 130.
Ouais, 130, c'est plus simple.
Oui, d'accord.
C'est plus simple.
Donc, pour 130$ plus taxes,
ouais.
Ça s'achète un appareil comme ça. On peut retrouver ça dans un magasin ou on peut l'acheter en ligne chez...
Généralement, dans les magasins de jeux, on peut demander à ce qu'ils les commandent s'ils ne l'ont pas en magasin. Sinon, sur le site directement de Microsoft, vous pouvez l'acheter et c'est assez utile.
Alors, c'est un contrôleur adaptatif qui va permettre à quelqu'un de... Comme c'est un Xbox ordinaire, mais à ce moment-là, les commandes vont devenir verbales. Comment ça va?
Alors, ça va entièrement dépendre. On peut brancher n'importe quoi dessus. Donc, on peut brancher des claviers, des souris, des périphériques, n'importe lesquels, des interrupteurs, des boutons, des pédales, des senseurs de proximité vers le mouvement. Et donc, on peut brancher n'importe quoi et se faire une customisation complète de son contrôleur pour jouer de la manière dont on veut.
Donc,
si on veut jouer à une main, si on veut jouer juste avec les yeux, si on veut jouer n'importe comment, il sera possible de tout customiser et de tout partager avec les autres utilisateurs.
Et donc, à ce moment-là, finalement, c'est une interface qui ne laisse pas de traces parce que c'est la même technologie Xbox au bout. Donc, ce qui est à l'écran, la communication avec les autres joueurs, si on fait ça en ligne, va être la même chose.
C'est ça, ce sera vraiment la même chose. Personne ne peut savoir qu'on utilise de quoi que ce soit. Et c'est possible vraiment de changer tout ce qu'on veut.
D'accord.
Donc,
C'est bien. Comment on fait pour... Est-ce qu'il y a une... je dirais, un regroupement de toutes ces idées-là. Comment est-ce qu'on peut participer à un forum de trouvailles de ce genre-là?
Mmh. Évidemment, il y a toujours le forum Microsoft où les gens se réunissent, mais sur n'importe quel réseau social, il est très facile de trouver des groupes, que ce soit sur Facebook, Reddit, Instagram ou quoi, de personnes qui ont des difficultés à servir des manettes traditionnelles et qui vont partager leur, on va dire, leur setup, leur configuration pour pouvoir jouer différemment.
Leurs astuces.
C'est ça. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'évidemment, on peut brancher des périphériques qui sont créés spécialement, vendus par Microsoft pour ça. Mais comme on peut brancher n'importe quel autre périphérique, évidemment, il y a des petites astuces qui se donnent. Tel clavier est mieux qu'un autre, bouton est mieux qu'un autre, etc.
Oui, parce que on peut profiter de l'expérience d'autres personnes, peut-être avec une mobilité réduite, qui ont fait des essais-erreurs, qui ont trouvé ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas.
Exactement.
Il y a une association qui s'appelle Cap Game.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Alors ça, moi, je conseille aux personnes qui ont envie de jouer aux jeux vidéo, de commencer ou alors d'améliorer leur confort, d'aller voir. L'association, c'est une association française qui a un site internet capgame.fr.
C'est CAPGAME.fr.
Exactement. C'est une association en fait qui propose des tutoriels sur l'installation du matériel informatique, mais aussi qui font des tests de jeux pour savoir quels réglages à l'intérieur des jeux sont plus développés ou pas. Donc ils font des grands tests où ils recensent les réglages d'accessibilité. Ce sont trois catégories. Donc ils vont attribuer trois notes et ils évaluent en fait les efforts du jeu à s'adapter à des handicaps visuels, auditifs ou moteurs.
Alors, selon la situation dans laquelle on se retrouve, si on vit avec un handicap qui limite l'accès par la vue, l'ouïe ou pour la motricité, en allant voir www.capgame.fr, on va y trouver notre compte, on va avoir un peu de support, un peu de soutien.
Exactement. Moi, je conseille vraiment leurs tests de jeu qui sont très, très détaillés et on peut voir très clairement quel jeu est fait pour nous, en tout cas, ou alors est plus facile d'accès.
Ben, surtout avant de commencer à payer pour télécharger un jeu, puis après ça, s'apercevoir que, mais je ne peux pas tout à fait le jouer, puis je ne suis pas confortable, c'est pas fait pour moi.
Exactement.
Ben, ça, c'est formidable. Ben, merci beaucoup, Alban.
Merci beaucoup.
Évidemment, c'est important que tout ce que vous venez de nous dire, on va le retrouver sur notre site.
Oui.
Parce que prendre tout ça en note rapidement, c'est pas facile. Et ce qui est bien, on va en reparler. Voilà.
Oui, on a d'autres choses à dire, ça ne s'arrête jamais.
Bravo. Alors, on va reparler de technologie, peut-être parfois plus sérieuse, mais aussi de la technologie ludique au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Bien, merci beaucoup, Alban. À la prochaine.
Merci beaucoup.